Des grands champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. Aujourd'hui dans Champion, on reçoit les deux frères les plus célèbres de France, juste après PNL peut-être. Champion, épisode 8, avec les handballeurs Nicolas et Luka Karabatic.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Champion du monde !
Il est champion olympique !
Champion, mon frère !
Question pour un !
Champion du monde !
We are the champions !
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Salut les gars, ça va ?
Salut, ça va très
bien. Tutoyer, oui, je vous tutoie tout de suite.
Oui, on se tutoie. Ouais. C'est mieux.
Alors, généralement, quand on commence le podcast, je commence tout le temps par demander comment les athlètes sont venus à faire ce sport. Mais je crois que pour vous, il n'y a pas eu trop de questions, puisque c'est votre père qui était déjà dans le handball.
Oui, c'est ça. C'est notre père qui était à l'époque pro, même presque pro déjà, ex-international yougoslave. Il était gardien de but. Ouais, c'était la Yougoslavie encore. Et il était gardien de but. Et après, il a été entraîneur. Et cursus normal, ça a été notre entraîneur. Ça a été mon entraîneur, l'entraîneur de Luka aussi. Notre prof d'école, notre prof de sport au primaire aussi. On a toujours eu beaucoup de sport à la maison.
Et vous n'avez jamais voulu faire autre chose, essayer d'un autre sport ?
Si, bah moi j'ai fait un autre sport. Ouais. À la base, j'ai commencé avec le hand. Comme disait Nico, c'était dans la famille. Donc au début, la question ne s'est même pas posée. Enfin, moi, dès que j'ai su marcher, je suivais mon père, mon frère. J'étais sur un terrain de hand. On allait voir les matchs, les entraînements. Donc j'étais lancé là-dedans. Et puis après, moi, c'est vrai qu'à l'âge de 6 ans... Je suis passé devant un terrain de tennis, j'ai dit à mon père que j'avais envie d'essayer, ça avait l'air chouette. Du coup, j'ai commencé à faire du tennis aussi, et j'ai fait hand et tennis pendant un certain temps. Derrière, j'ai délaissé le hand pour faire que du tennis pendant 10 ans, et après je suis revenu au hand.
Parce que t'as eu un gros niveau, je crois, non ? T'as joué contre des gars costauds.
Ouais, ouais, bah quand j'étais jeune, j'étais un espoir, hein. Ouais. J'aime pas trop... J'étais humble, mais voilà, j'étais en Pôle France.
T'avais quel âge là ?
À 11-12 ans, j'étais champion de France. À 13 ans aussi. Après, j'ai joué jusqu'à l'âge de 19 ans. Alors, je me suis arrêté, j'étais moins 4-6. Ceux qui font du tennis, ça leur parlera le classement. Voilà, je gagnais jusqu'à moins 30. Mais... Enfin, voilà, c'était,
et t'as joué contre des mecs
de ma génération, ouais. Je faisais tous les grands tournois, les petits as, tous ces trucs-là. Après, de ma génération, les mecs, j'ai joué des mecs comme Nishikori, Del Potro. Voilà, ça, c'était des mecs de ma génération. Qui étaient les meilleurs à ce moment-là. Mais
Et t'as pas voulu...
Et en français, j'avais joué souvent un mec comme Manarino, Adrien Manarino, par exemple, qui est un joueur qui est un très très bon...
Benoît Paire, non,
Benoît Paire, il a un an de moins que moi, je l'ai joué aussi, je le connais très bien aussi, on s'est joué une ou deux fois.
Et pourquoi t'as lâché si t'étais si...
Je dis souvent, j'avais plus la flamme, vraiment, plus la passion en fait. C'est un sport très particulier, le tennis. Et moi, c'est vrai que j'ai eu le virus du hand très tôt, et c'est un truc qui m'a jamais lâché. Et j'ai toujours eu un manque, entre guillemets. Et c'est vrai qu'en plus de... Voilà, j'étais tennisman, mais j'étais dans un monde de handballeur avec Nico, avec mon père. Voilà, je regardais tout le temps les matchs de hand à la télé. J'avais toujours ce manque, j'avais toujours envie d'y revenir, mais je franchissais pas le pas. Donc voilà, ça a pris un peu de temps, mais au bout d'un moment, c'est grâce à ma mère aussi qui m'a dit « Allez, c'est bon, arrête de te poser les questions, on va t'entraîner. » Un jour, je suis reparti, je suis allé avec mon père faire un entraînement et puis j'ai plus jamais retouché dans la raquette de tennis.
Deux frères qui font le même sport, comment c'était ? Parce que déjà entre frères, moi j'ai deux frères, donc je sais qu'il y a beaucoup de compètes. Comment c'était vous entre vous ? C'était sain ? C'était vous embrouillez ? Vous étiez
des embrouilles et sains en même temps en fait. C'était vraiment les deux.
On s'embrouillait aux jeux vidéo. On s'embrouillait au tennis quand il a commencé à me battre, alors que j'ai 4 ans de plus que lui, j'ai plus joué contre lui.
Ping-pong aussi.
Ping-pong, on s'embrouillait pas mal.
Il a vite été frustré parce que je l'ai vite battu aussi. Des jets de raquettes assez lointains, des trucs comme ça.
Et puis quand lui s'est remis au hand à 19 ans, moi j'ai joué en Allemagne et je suis rentré jouer à Montpellier, on a joué ensemble. Et donc en fait, après, on a joué tout le temps ensemble. Donc
ça
plutôt...
devait être génial, non?
C'était plutôt de la coopération que de la compète. Et puis, on ne joue pas au même poste. Donc ça, c'était génial.
Du coup, quoi, 4 ans d'écart ?
Ouais, 4 ans d'écart, ouais.
Et t'as eu le syndrome du petit frère qui veut être avec le grand frère ? Et toi, le grand frère qui dégage le petit frère ?
Ouais,
moi, j'ai ça avec mes frères.
On a eu un peu tout ça, bien sûr. On a eu tout ça. On a eu du... forcément, dans les jeunes années, la différence d'âge se fait un peu plus ressentir. Un peu le souffle-douleur au début quand même, un peu martyrisé.
Beaucoup de bastons à la maison.
La couverture sur la tête, m'empêcher de respirer, qui c'est le plus fort, sinon je n'ouvre pas. des trucs où ouais, bouge pas là, je vais tenter un coup de pied de karaté, j'ai arrêté mon pied à 2 cm de ta tête et finalement il finit dans mon œil. J'ai une photo.
Ça arrivait une fois.
Une photo. Il tourne le vélo, il s'amuse à faire tourner les roues comme ça. Et moi, j'arrive petit, je mets le doigt dans le vélo, enfin, un truc comme ça. Mais après, ouais, la relation, elle évolue un peu. Lui, bah, voilà, il y a ses copains qui viennent à la maison. Moi, je suis un peu le petit, petit
casse-emmerdeur.
Casse-bonbon derrière. J'essaye un peu, j'espionne à travers la. Enfin, je regarde à travers le truc de la porte. J'essaye un peu de. Mais je traîne quand même un peu avec eux. Mais de temps en temps, ils me mettent de côté aussi. Donc voilà, et après. Il y a ce truc où moi, à 13 ans, je pars de la maison. Du coup, voilà, tout de suite, on est un peu éloignés l'un de l'autre. Nico, ouais. À 15 ans, il part aussi en sport-études. Après, lui, il part très tôt en Allemagne aussi. Moi, j'étais... Donc, on a été, à cette période-là, on a été assez éloignés l'un de l'autre, toujours très en contact. Mais quelque part, cette période d'éloignement, je pense que c'est ce qui a fait que derrière, on a vraiment été très proches dès qu'on s'est retrouvés. Parce que voilà, je pense que quelque part, ça a servi à ça. Et à partir du moment où on s'est retrouvés, on s'est réunis, ça a vraiment été très, très, très fort, une relation vraiment fusionnelle. Donc voilà, c'est ce qui a fait aussi partie de notre parcours. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très fusionnel, mais en même temps, quand on se prenait la tête, enfin, quand on se prend la tête, ça peut aussi aller, ça peut aller très loin. Et, quand on était plus jeune, c'était par exemple une partie de FIFA ou de PES, ça pouvait dégénérer en jet de manette contre les murs et classique. Tu parles pas pendant 2 jours, ça pouvait être fort. Et même là, dans les dernières années, c'était plus sur le terrain, à l'entraînement ou des trucs où tu as de la compétition, où on peut se prendre la tête et ça peut partir fort.
Ouais. Oui, bien sûr.
J'ai un souvenir d'une prépa il y a 2 ans où on part en Slovénie pour la prépa au mois d'août. C'est un stage vraiment intensif, un truc. Et on avait notre coach Noka qui était un coach, voilà, un ancien du gaz qui te fait des trucs de ouf et tout, des exercices, t'es l'un contre l'autre. Et à un moment donné, on se retrouve l'un contre l'autre dans un exercice de course, machin. Ça commence un peu à gruger, les mecs à gauche, à droite. Et on s'est retrouvés à se foutre sur la. Enfin, vraiment. On s'est embrouillé. On s'est pas parlé pendant 4 jours, pendant la prépa.
Ouais. Juste parce qu'on a embrouillé l'entraînement, quoi.
Ah, c'est parti loin, parce qu'il y avait cet esprit de compétition, de pas perdre, le machin. Et voilà, tous les deux, on est des compétiteurs, on déteste perdre et tout. Et du coup, ça a fait des étincelles. Et au bout de 4 jours, voilà, ça a un peu redescendu. On a eu une réunion.
Ouais, mais c'est redescendu grâce à qui?
Il va dire que c'est grâce à lui, moi je dirais que c'est grâce à moi. Enfin, le premier revenu vers l'autre, ça,
moi, je monte vite dans les tours. Je monte vite dans les tours, mais je suis pas rancunier. Donc je vais après parler. Alors que lui, il dit rien.
Ah, des fois, j'aime bien
sur lui, il dit rien. Mais il laisse le truc, tu vois, il va pas te parler après, il va pas venir faire le pas pour résoudre le problème. Sinon, il y a le problème, il laisse le problème. Alors que moi, je peux monter plus vite, même alors que là, ces derniers temps, je me suis calmé.
Ouais, tu t'es calmé, ouais, t'as mis de l'eau dans ton vin. Ouais. C'est vrai que depuis, on n'a pas eu de.
C'est vrai.
On n'a pas eu de.
Mais je suis pas rancunier, alors que lui, le plus, il va bougonner et il va pas te parler.
Et ado, est-ce que vous étiez des ados classiques, c'est-à-dire qu'ils font hyper gaffe à leur apparence, un peu, tu vois, quand t'es mal dans ta peau, tu te cherches, ou au final, tu es assez tranquille et...
Bah, déjà, j'avais de l'acné.
En plus, à
15 ans, je me suis pété le nez. Donc,
tu t'es pété le nez?
Je me suis pété le nez à 15 ans sur un match. En me jetant sur un ballon avec épaule contre épaule, et l'autre m'a mis un coup de poing sans faire exprès. Donc je me suis pété le nez, donc j'ai eu un nez de boxeur à 15 ans avec l'acné. Donc c'était pas mes meilleures années à l'adolescence. Donc ça m'a servi, hein, parce que du coup je me suis concentré
sur
le sport et les études.
Ah, c'est pas facile.
Donc c'était pas nos meilleures années, tu vois, au niveau style.
Par rapport à ça, j'ai un truc aussi où j'avais eu un peu de mal. C'est vrai que j'avais un peu d'acné aussi, mais je me souviens, à 13 ans, j'avais une petite moustache qui commençait à pousser. Je l'assumais pas et j'avais du mal. J'avais le ciseau dans la trousse. J'essayais de couper au ciseau comme ça un peu pour que ça mette. Mais je me souviens avoir eu un peu de mal à vivre ce truc-là.
Nicolas, toi, t'es né en Serbie? Lucas, toi, t'es né à Strasbourg. Votre père est croate, votre mère est serbe. Et vous êtes nés tous les deux pendant la période où les deux pays étaient pris dans la guerre d'ex-Yougoslavie. Vous en avez des souvenirs? Vous en parliez à la maison ou...
Ah, moi, je suis né en 84. Toi, Loulou, en 88. Et la guerre a commencé en 92. Et là, on était déjà... On vivait en France.
Du coup, on était jeunes, enfin même à lui 4 ans, moi 8 ans, tu captes, mais tu comprends pas très bien. Tu vois tes parents qui s'inquiètent, qui sont au téléphone, la famille.
Ouais.
Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'arrivais pas à comprendre parce qu'il y avait un milliard d'explications entre les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les Slovènes. Tu comprenais pas tout. Et c'est que plus tard, en grandissant, en documentant, en allant chercher les infos, lisant un peu les livres qui traitaient de ça, où tu comprends ce qui s'est vraiment passé. Quoi.
Surtout que nous, on avait les deux côtés, parce que comme tu dis, notre père était croate, ma mère serbe, donc nous...
Toutes les familles étaient comme ça.
Oui, toutes les familles étaient comme ça. Donc c'est vrai qu'en plus, ça nous dépassait un peu. T'as du mal à comprendre, alors que toi, à la maison, ça se passe très bien. Ouais. Et tous les gens que tu connais, ça se passe très bien. Donc c'est toujours assez souvent pareil. C'est une minorité de gens qui font des trucs, et derrière, t'as l'impression que... Ouais. Tout le monde est contre tout le monde, alors que c'est pas le cas.
Ouais. Ouais. D'ailleurs, toi, je crois, Nicolas, t'es devenu champion du monde en Croatie en 2009. Ça devait être particulier, non, pour toi? Ça devait faire un truc bizarre.
Ouais, c'était un moment assez spécial et énorme. J'en garde des souvenirs incroyables. Mais premier titre de champion du monde, c'était en Croatie. On venait d'être champion olympique avec la France. Et à cette époque-là, la Croatie et la France, c'était les deux meilleures équipes au monde. Et en 2008, au JO de Pékin, on les avait battus en demi-finale. D'ailleurs, on a été champion olympique. Et là, 6 mois après, donc janvier 2009, on les jouait en Croatie. Et c'était un peu tout le monde avait un peu monté la sauce et prédisait finale France-Croatie. Et que ça allait être un truc énorme. Et en plus, le hand en Croatie, le sport en Croatie, c'est vraiment énorme. Donc on a joué en finale devant 15 000 Croates. Et je me faisais huer et insulter par toute la salle. Et donc c'est spécial, et j'avais mes parents en tribune, tout le monde m'insultait, ma mère flippait, donc c'était assez spécial.
Ça, comment
spécial.
Tu le vis intérieurement, c'est quand t'as 15 000 mecs qui te... Enfin, ça doit être hyper dur, quoi.
Ouais, après je m'étais préparé, j'en discutais beaucoup avec mes parents, avec mon père, qui me disaient, voilà, faut que tu te concentres, faut que tu fasses gaffe, ils vont essayer de te provoquer, tu vas te faire huer, mais bon, ça je m'étais déjà un peu préparé... Donc il faut que tu sois costaud dans ta tête, ils vont te provoquer, donc réagis pas. Et donc il y a même eu une action où ça a chauffé avec Balic, qui était la star croate, où on s'est retrouvé tête à tête.
Oh là là, c'est l'image! C'est l'image de ce mondial! Les deux meilleurs joueurs du monde face à face qui se provoquent!
Et du coup, au lieu de réagir, tu vois, je souris. Et eux, c'est un peu le moment où ils perdent des pieds. Et du coup, je m'attendais à ce moment, donc. Où ils allaient essayer de me provoquer. Mais c'est vrai que c'était spécial de voir un pays, c'est quand même ton pays aussi, c'est le pays de ton père, et tu vois, t'as toute la salle qui te crache dessus, donc c'est assez spécial. Mais bon, quand je reviens en Croatie, tout le monde fait des photos et sympa avec moi, mais quand je joue au hand, c'est une autre histoire.
Vous avez aussi participé au JO. Mais il y a une question que je me pose tout le temps, et pour l'instant, j'ai pas eu trop de réponses satisfaisantes. Dans le village olympique, comment ça se passe? Est-ce que tous les fantasmes qu'on a sur le village olympique sont vrais ou pas? Vous avez le droit de me dire des anecdotes, sans donner de nom, bien évidemment.
Moi, j'ai vécu une seule Olympiade, Nico. On a vécu trois, donc quatre. Mais c'est vrai qu'il y a Athènes, j'ai oublié.
Tu dois avoir des histoires.
Il en a plus, mais moi, franchement, oui, dans le village olympique, c'est une super ambiance, c'est cool. Tu échanges beaucoup avec les autres athlètes, tu discutes. La Team France, tu vois plein de mecs d'autres sports, c'est vraiment cool, donc tu discutes. Mais je pense que suivant le sport que tu fais, tu vis pas les mêmes Olympiades déjà, parce que nous, on joue deux jours. T'arrives, t'es direct dans le truc, t'es tout le temps sous pression. C'est très compliqué de décompresser. Et alors que t'as des sports où ça va être sur 2-3 jours, des fois même un jour. Et souvent, derrière, ils finissent très rapidement leur compétition. Donc tu vois, toi, t'es là en train de préparer tes matchs et tout, et tu vois les mecs qui ont les sacs à dos, qui vont partir à Rio, ils vont visiter Rio, ils vont faire. T'as plus ce côté vacances, donc j'imagine qu'ils doivent profiter aussi. Après, dans le village, franchement, c'est pas... Moi, ça m'a pas choqué sur ce dont tu parles, ça m'a vraiment pas choqué, quoi.
Mais il y a pas de grosses teufs.
Il y en a.
Moi, je pense qu'il y a des teufs, mais c'est ce que disait Lucas, c'est que, tu vois, par exemple, nous, les sportco, si tu vas au bout, si tu te bats pour les médailles, en fait, tu commences le premier jour des JO, tu fais la cérémonie, le lendemain, tu joues, et tu finis le dernier jour à la clôture. Et donc, en fait, à aucun moment où tu peux vraiment faire la fête, juste le dernier soir, si tu as gagné une médaille, voilà, et puis tu repars le lendemain matin. Alors, tu as des sports, comme il a dit, qui font 2-3 jours de compète.
Ouais.
Si en plus ils ont la chance de le faire au début, et après, les mecs, ils sont en freelance, ils ont
c'est
fait leur compète.
C'est les nageurs, on m'a dit.
les nageurs, on m'a dit que c'était un peu,
si tu veux faire la teuf, c'est eux qu'il faut suivre.
Bah ouais, parce que du coup, ils finissent tôt, et puis derrière, c'est super parce qu'ils vont voir. Bah, ils vont voir les potes de l'équipe de France, ils vont voir un peu
ça,
tous les sports.
Ouais. Pouvoir aller voir
le soir,
les
ils vont faire les soirées des sponsors qui sont organisées par les sponsors. Et donc, ils peuvent vraiment vivre les Jeux en tant qu'athlète, ayant participé et derrière profiter. Alors que nous, moi, j'ai, en 4 Jeux Olympiques, j'ai vu aucune autre compète.
Je me rappelle quand même, vous faisiez bien la teuf. Vous étiez bien chaud.
Ouais, mais c'est après avoir gagné.
Ouais, bah,
par exemple,
gagné,
en 2008, on avait gagné. On est allé sur le plateau de Canal.
Ouais. Et, c'était Canal ou c'était l'équipe, je sais plus, où
les mecs, ils étaient en train de démonter parce que c'était la dernière émission. On avait joué la dernière compète. Ils nous avaient dit, allez-y, démontez le plateau. et donc, on avait démonté le plateau et c'était cool. Et ça, on avait bien rigolé. C'était vraiment une bonne ambiance. Et l'année et 4 ans après, on est de nouveau champion olympique et c'était sur le plateau de l'équipe. Et là, pareil, ils nous disent voilà, c'est le dernier, c'était au Club France, c'est la dernière, dernière compète, dernière émission, vous pouvez démonter le plateau.
Ah, t'étais avec Claude là.
Et j'étais avec Claude, je démonte le plateau, moi j'arrive, bonne ambiance. Je démonte le plateau, on rigole, et le lendemain, scandale.
Oui, je me rappelle,
Les handballeurs ont tout cassé.
C'est eux qui t'avaient dit.
Nicolas Karabatic a cassé la table. Je dis attends, mais c'est quoi ce délire, on m'a demandé de le faire. Et en fait, c'était. Ouais, parce que ça avait frictionné un peu entre Claude, notre coach, et l'équipe qui nous avait un peu traité d'équipe vieillissante, tout ça. Donc, bref.
Ouais.
Mais bon, c'était marrant.
Comment vous gérez ça aussi, genre les réseaux, les médias, tu vois, les haters?
J'ai envie que l'on ne soit plus médiatisé, tout ça, parce que je trouve que ça manque. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois d'autres sports où c'est ultra médiatisé, je vois tout ce que ça engendre et tout, je me dis. Quelque part, je suis content aussi.
Au moins, vous êtes peinard, un peu plus peinard.
Mais je pense que, des fois, j'essaie de m'imaginer de mettre à la place de ces mecs-là. Pour moi, la meilleure solution, c'est vraiment de se couper de ça. Et moi, je regarde très peu, franchement. Je préfère ne pas savoir. J'ai pas besoin de savoir. Et donc, même que ce soit des journaux, par exemple, quand il y a une compétition, des choses comme ça, je lis jamais.
Ouais.
Même si, dès qu'il y a un truc qui est écrit sur moi ou qu'il y a un truc sur moi, je le lis pas. Et au moins, c'est réglé.
Ouais.
C'est, pour moi, c'est la meilleure façon de gérer ça. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, je sais ce que je vaux, enfin voilà, c'est comme ça que je gère.
Ouais. Et toi, Nico?
Ouais, c'est un peu pareil que Lucas. Après, tu vois passer, je vois passer des messages, bien sûr, de temps en temps, des haters, des mecs qui t'insultent. Par exemple, là, au qualif pour les JO, la France a perdu à la dernière seconde contre le Portugal, donc la Croatie s'est pas qualifiée. Et moi, je jouais pas, mais je me suis fait insulter par les Croates. Ils m'ont insulté, menace de mort, tout ça. Donc, tu vois passer les trucs. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu signales, je signale et je bloque. Voilà.
Ouais.
Je peux faire que ça, mais maintenant je me suis habitué, ça me fait plus.
De toute façon, j'imagine que la vie de tous les jours, les gens ne doivent pas trop venir vous le dire en face. Quoi.
Aussi, ouais, c'est exactement ça. Tu le vois, quasiment jamais personne qui est venu hater en face à face.
Ça, j'imagine, ouais.
Donc, ouais. Même si on est des non-violents et qu'il n'y aurait pas de soucis, on leur expliquerait gentiment, mais voilà, après, ça, c'est les réseaux sociaux, ouais, c'est un peu comme ça, mais bon.
Nico, il y a un ou deux ans, on déjeunait pas loin d'ici d'ailleurs, je déjeunais pas loin d'ici, t'étais à table avec un tout petit bébé, que je pense que tu venais d'avoir un petit bébé, et je me suis dit, putain, ça doit être une vie ultra prenante, et en plus, il doit gérer ça. C'est compliqué, la vie de famille, ou pas, quand t'es sportif de haut niveau?
Quand tu deviens papa, ta vie, déjà, même si t'es pas sportif de haut niveau, ta vie change,
donc
je pense que tous ceux qui sont devenus papas ont eu leur vie qui a changé, mais quand t'es sportif de haut niveau... ta vie change encore plus parce que quand t'es sportif de haut niveau, t'es toujours un peu, malgré tout, auto-centré. Enfin, t'es concentré sur ta performance. Tu fais tout. Enfin, toute ta vie est dédiée à ça. Le soir,
tu récupères,
tu vas te coucher. Enfin, tout est optimisé pour ta performance. Donc, t'as toute ta vie qui change. Et ta vie, c'est plus toi. Il faut que ça reste un peu toi parce que t'es sportif de haut niveau et que t'es payé. Enfin.
Ouais.
C'est mon taf, mais c'est notre passion. Donc, on veut être bon sur le terrain, donc on veut se concentrer et tout mettre en œuvre pour être bon sur le terrain. Mais malgré tout ça, t'as ta vie qui a été chamboulée. Il faut que tu t'occupes de ton fils ou de ta fille. Et il faut que tu aides aussi ta compagne parce que c'est compliqué. Et que quand le bébé ne dort pas, tout le monde morfle à la maison. Donc, ouais, c'est clair que c'est clair que ma vie a énormément changé depuis que ben, je suis papa. On a eu Alec en 2016 et Nora là en 2018. Donc c'est du boulot en plus quand tu rentres à la maison, mais au final c'est du bonheur et ça te permet un peu de relativiser aussi, de pas penser qu'il y a que le handball dans la vie.
Ouais, puis ça t'apporte aussi un cadre et je pense que pour certains ça fait pas de mal aussi. Comme tu disais, t'es auto-centré sur ta performance tout ça, mais quand t'as pas d'enfant, tu peux sortir un peu plus facilement. Allez, alors que quand t'as des enfants, tu sors une fois, il te faut une semaine pour t'en remettre. Donc ça t'aide aussi à te coucher plus tôt, à avoir une meilleure hygiène de vie.
Oui, c'est vrai.
KDV, donc tu peux le voir aussi comme ça, ça peut te permettre
ça te focalise.
C'est mieux cadré.
Les footballeurs, souvent, là, ils ont des bébés tôt et souvent, c'est les clubs qui aiment bien ça et qui les poussent limite pour justement les cadrer. Quoi. Parce que vous avez eu une période un peu où tu fais beaucoup la teuf.
On faisait la teuf, ouais, quand même, de temps en temps. Enfin, le hand, il y a un peu aussi cet esprit un peu rugby, quand même.
Ouais, c'est ça, un peu rugby, ouais.
Ou voilà, les troisième mi-temps.
Elles sont costauds.
Ah, c'est quand même, ouais. Donnez pas notre part au lion. Enfin, on a toujours aimé ça, mais voilà, toujours une fois de temps en temps. Enfin, voilà, pour Nico et pour moi, c'était un peu la même chose. C'est une fois, tu le fais bien, et après, voilà, tu le fais pas une fois, trois ou quatre fois par semaine, un peu ou à moitié. Non, c'était plus une fois, voilà, après le match, tu fais une bonne sortie, et derrière, tu es tranquille pour un mois ou deux. Mais ouais, on aime bien faire la fête de temps en temps, et ça fait partie aussi de l'esprit des sports co, voilà, la camaraderie, tout ça. Et on a toujours aimé aussi ça, et c'est aussi important, et il faut aussi passer par là, je pense.
Alors les gars, pour finir, je vais vous demander votre panthéon personnel, votre livre préféré, votre film culte, votre série culte, vos acteurs et actrices favorites et votre chanson ou album.
Film culte en comédie française, c'est La vérité si je mens. Ah oui. Ça, c'est un truc, quoi. On parle en vérité si je mens, des expressions tous les jours.
Toutes les jours, pareil,
c'est
le 1 et le 2, du coup. Oui, ouais, le 3, non.
C'est un film, la mulette marocaine.
Je pense que s'il passait 3 fois par semaine... Je le regarderai 3 fois par semaine. C'est un chapeau qui passe, ouais. En polar, bien marqué par Un prophète, un de mes films préférés français. Après, film américain, un film que j'ai poncé, Forrest Gump. Quand j'étais petit, je le regardais beaucoup.
Moi, je dis toujours,
et pareil,
Forrest
je peux toujours le regarder quand il passe à la télé.
Pareil.
La BO est extraordinaire aussi. Enfin, ouais. C'était quand le samedi soir, Nico et moi étaient ensemble. On s'est fait sur YouTube un quiz de musique de film. On a fait ça pendant 1h20, énorme.
Un blind test, musique
blind
de
test,
film.
Ouais, c'est
blind test, musique de film.
Mais génial, ouais, franchement, on s'est régalé. Et ça rappelait plein de souvenirs.
Et du coup, alors, s'il y a un artiste en musique.
Ouais, un classique, un IAM, NTM.
Moi, j'aime bien Aurel San.
Ouais. Très cool,
Aurel San. Un rappeur français. Et Nekfeu. On écoute Booba aussi, même s'il a chié sur le hand.
Oui, il met une punchline à un moment, il dit quoi ? On te regarde pas comme le hand ou un truc comme ça.
C'est comme ça, il a chié dessus.
Tout ça, c'est bien pour 30 balles. Personne te regarde comme le handball.
Non, on est pas rancunier.
Ouais, bon joueur. Écoute, on n'en veut pas à B2O. Et en série, vous regardez des séries ou pas, beaucoup ?
Beaucoup de séries. On aimait bien regarder ensemble quand on partait en déplacement. Souvent, on est en chambre ensemble, équipe de France. Du coup, on s'est fait pas mal de séries. Ensemble, on s'était fait Les Sopranos. On avait vraiment kiffé Les Sopranos ensemble. Moi, avec Jenny, on s'est fait les 4 saisons de The Crown. Là. Ça m'a pris 3 mois. Mais regardez,
en ce moment, il y a le temps.
Ouais, y a le temps.
Et alors, en actrice ou en acteur fétiche que vous adorez ?
Moi, acteur, j'aime bien Tom Hardy. Américain.
On regarde tellement de films, c'est chaud.
C'est dur d'en dire un, je sais.
Et souvent, sur ce type d'interview, tu finis et 2 heures après,
tu fais « Oh, mais merde, j'ai oublié ça, lui
!» Je voulais dire. En fait, il faudrait faire une petite note.
Et la chanson ou l'album donc, que vous avez le plus écouté ?
C'est souvent rare de voir des albums où tu as toutes les chansons qui sont vraiment, vraiment bien. Quoi.
Ah, bien, c'est... Ah bah, c'est toujours, t'en as toujours.
Et là récemment, je sais plus, c'était il y a 2-3 jours, j'ai réécouté l'album de NTM.
Lequel ?
Celui
Paris
Suprême. Non, celui Suprême. D'après Suprême. Ouais. Il y a 80% des chansons.
C'est des tubes.
C'est des tubes.
Ouais.
C'est
pareil à l'école du micro d'argent. Toutes les chansons sont des tubes.
Doc Gynéco aussi, c'était.
Doc Gynéco, ouais, grave.
C'était génial. L'album, incroyable.
Jeux vidéo, t'as pas sorti les jeux vidéo ?
Ah, jeux vidéo, ouais, vous êtes des gros gamers apparemment. C'est quoi ?
À l'époque.
Moi, j'arrive à jouer, je joue.
Tu joues beaucoup ?
Je me limite à 1 heure par jour, tu vois, le matin. Je joue.
Ouais. Tu joues à quoi ?
Là, j'ai eu la PS5, donc j'ai eu la chance d'avoir la PS5.
Ah, joli.
Je joue un peu à Devil May Cry, le dernier, je crois que c'était le 5 qui était sorti. On a joué un peu au FIFA 21. Et là je, comme les titres sur PS5 mettent un peu de temps à sortir, du coup, je rejoue à des titres des jeux PS4 que j'avais ratés. Donc là, je joue à The Last of Us.
The Last of Us, trop bien.
Incroyable.
Mais...
J'ai refait Doom.
Doom
Eternal.
Putain, c'est
quand j'étais petit, je jouais à ça. Donc moi, je pense que je joue plus que Luca. Je suis un peu plus gamer que Luca.
À l'époque, j'étais plus gamer, mais c'est vrai que là... Il y a Mario Kart.
Il est devenu sérieux. Luca est devenu sérieux.
Ok, bah, trop bien, merci beaucoup les gars. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et comme d'hab, mettez des petites étoiles si ça vous a plu, comme ça on sera mieux référencés et on pourra dépasser Affaires Sensibles au classement des podcasts. Ça serait costaud. À la prochaine, salut.
It's Owen and Murph here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit, stop it with all the puns, Murph.
Marketers, advertisers, brands, big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you? I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts racing, breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.